Et c'est bien sûr l'heure du journal de la rédaction avec vous, Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Nicolas.
Pedro Sanchez a mis fin au suspense ce matin.
Oui, le Premier ministre espagnol a finalement décidé de rester à la tête du gouvernement et ce malgré la campagne de discrédit dont il accuse l'opposition de droite. Nous serons à Madrid dès le début de ce journal. On se rendra par ailleurs en Géorgie où le Parlement doit examiner aujourd'hui un projet de loi jugé liberticide et dont Bruxelles a d'ores et déjà averti qu'il mettait en péril l'adhésion du pays à l'Union européenne. L'actualité en France, c'est tout d'abord la recrudescence du nombre de cas de choléra à Mayotte. On s'intéressera également à la marque de soutien de l'État pour le groupe Atos à la recherche depuis des mois de liquidités sous peine de faire l'objet d'une vente à la découpe. Enfin, peut-on en finir avec les violences éducatives ordinaires ? On posera la question à notre invité aujourd'hui, le médecin Gilles Lazimi. Après avoir annoncé la semaine dernière et à la surprise générale réfléchir à une possible démission depuis l'ouverture d'une enquête contre son épouse, le Premier ministre espagnol a donc finalement choisi ce matin de rester à son poste. Et compte tenu de la ténacité avec laquelle Pedro Sanchez sera toujours illustré pendant sa carrière politique, ses partisans ne seront sans doute pas surpris. Mais à l'inverse, parce que l'homme est aussi un adepte des coups d'éclat, eh bien ses adversaires de l'opposition ne devraient pas manquer de dénoncer là une tactique électoraliste afin d'obtenir en se victimisant un soutien dont il ne bénéficierait plus nécessairement aujourd'hui. D'où cette interrogation. Pedro Sanchez pourrait-il malgré tout choisir de se soumettre à une question de confiance, manière de montrer à l'opposition de droite qu'il bénéficie toujours justement du soutien d'une majorité de députés. Élément de réponse avec notre correspondant à Madrid, Mathieu de Taillac.
Non seulement Pedro Sanchez ne démissionne pas, mais il ne se soumet pas davantage à un vote de confiance. En tout cas, il ne l'a pas mentionné, donc on imagine mal qu'il prenne un tel risque. Quand on sait que sa majorité est fragile et qu'il n'est pas à l'abri d'une défaite parlementaire qu'il contraindrait cette fois-ci à se retirer. Dans la dernière heure et même jusqu'aux premières minutes de son discours, tout portait à croire qu'il allait démissionner. Il avait rendu visite au roi ce matin, il avait convoqué l'ensemble du personnel de la présidence du gouvernement et il avait commencé son discours en rappelant la question qu'il s'était posée et qu'il avait transmise aux Espagnols dans une lettre de 3 pages mercredi dernier. Est-ce que tout cela vaut la peine ? Sanchez a commencé par répondre non, par 3 fois, en utilisant une anaphore. Il a dit en substance que si l'on accepte que l'action politique justifie toutes les attaques, alors ça ne vaut pas la peine. Et finalement, Sanchez a dit qu'après 5 jours de réflexion, après la mobilisation de ses partisans, il a décidé de continuer. Mais il a appelé à un changement des règles du jeu, à arrêter ce qu'il appelle la machine à bout. Autrement dit, les fausses informations, les attaques personnel contre la famille pour mieux s'en prendre aux responsables publics et à leur politique. Reste à savoir si cette considération se concrétisera en une initiative politique ou s'il s'agit, comme accuse l'opposition de droite, d'un stratagème à 2 semaines des élections régionales catalanes et à 1 peu plus d'1 mois des élections européennes.
Près de 7 mois après le début de la guerre sanglante menée par Israël en représailles à l'attaque barbare du 7 octobre, une énième réunion est prévue aujourd'hui au Caire avec le Qatar et le Hamas pour tenter de parvenir à un cessez-le-feu. Les détails du texte élaboré par l'Égypte et amendé par Israël n'ont pas filtré, mais ils pourraient inclure l'établissement d'un calme durable à Gaza.
Et puis de son côté, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est arrivé ce matin en Arabie Saoudite.
Oui, première étape d'une tournée au Moyen-Orient destinée à promouvoir, là encore, une trêve entre les deux belligérants ainsi que l'entrée de davantage d'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne assiégée et menacée de famine. Le parti au pouvoir en Géorgie, ex-république soviétique du Caucase, serait-il tenté de ramener insidieusement le pays vers Moscou ? C'est aujourd'hui que le Parlement doit examiner un projet de loi sur l'influence étrangère, directement inspiré de la législation en vigueur en Russie qui a permis là-bas en quelques années de faire taire l'opposition. Alors une première tentative de faire passer ce texte jugé liberticide par ses détracteurs avait échoué il y a 1 an après des manifestations de masse. Et cette fois-ci, comme pour mettre toutes les chances de son côté, le parti au pouvoir a prévu d'organiser lui-même sa propre manifestation aujourd'hui. Précision sur place de notre correspondant Régis Janté.
Sans doute inquiet après 2 semaines de manifestations quotidiennes contre son projet, le gouvernement géorgien a voulu organiser son propre rassemblement ce lundi soir pour dire que le peuple soutient sa loi. Il espère rassembler 100 000 personnes au cœur de Tbilissi. Ce sera le premier rassemblement pro-loi sur la transparence de l'influence étrangère. Aucun rassemblement spontané en sa faveur n'a été organisé depuis que ce projet a été relancé. Rappelons que le rêve géorgien, le parti au pouvoir de l'oligarque Bidzina Ivanishvili, qui devrait être ce lundi soir sur scène à l'occasion d'une rare apparition publique, a été contraint de retirer ce même projet, à peu de choses près, il y a un peu plus d'1 an, en mars 2023 suite à des manifestations massives contre ce que l'on appelait déjà dans le pays la loi russe. Massive, mais moins massive que ce que déjà l'examen de ce texte très inspiré de la loi russe de 2012 sur les agents de l'étranger a drainé dans les rues de la capitale géorgienne ces derniers jours. Ce dimanche soir, alors que le parvis du Parlement était bouclé, des préparatifs du rassemblement pro-gouvernement étant en cours, les opposants à la loi se sont réunis quelques encablures plus loin. Mais sur les coups de 22h, la foule, sans doute plus de 50 000 personnes, s'est dirigée vers le Parlement, entrant dans un face-à-face tendu avec les forces de l'ordre.
Là-bas aussi plane l'ombre de Moscou.
Oui, tandis que les affaires se multiplient en Allemagne autour de l'influence russe. Présumé, un ancien soldat de carrière doit comparaître aujourd'hui pour espionnage au profit de Moscou. Et puis, toujours outre-Rhin, doit également s'ouvrir le premier de trois procès autour de la conjuration dite des citoyens du Reich, un réseau armé nourri aux idéologies complotistes et d'extrême droite suspecté d'avoir fomenté un coup d'État. Les 9 hommes appelés à la barre aujourd'hui sont tous accusés de participation à une organisation terroriste. Dirigé par une junte militaire, le Burkina Faso a décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre l'accès à plusieurs sites d'information, dont celui du journal Le Monde et de la chaîne TV5 Monde, sanctionné pour avoir diffusé un rapport accusant l'armée burkinabé d'avoir exécuté des villageois suspectés de collaborer avec des groupes djihadistes.
Les Togolais votent depuis ce matin pour des élections législatives et régionales sous très haute tension.
En l'occurrence, l'opposition qui avait préféré boycotter le précédent scrutin a choisi cette fois-ci d'affronter directement dans les urnes le parti au pouvoir pour dénoncer ce qu'elle qualifie de coup d'État constitutionnel, l'adoption il y a 10 jours d'une réforme controversée grâce à laquelle le président ne sera plus élu par le peuple mais par les députés, ce qui pourrait grandement faciliter la prolongation de la dynastie Gnassingbé à la tête du pays. Comment protéger plus efficacement et équitablement le monde de possibles futures pandémies? Après 2 années de travaux, des négociations présentées comme celle de la dernière chance doivent débuter aujourd'hui au siège de l'Organisation Mondiale de la Santé, sauf qu'en dépit du souvenir de millions de morts et malgré un assez large consensus sur la nécessité de parvenir à un texte contraignant, de grandes divergences subsistent encore sur la manière de s'y prendre, au point que le document de travail a été déjà en grande partie simplifié, comprenez, édulcoré des aspects les plus disputés.
Nouvelle illustration de ce que Mayotte s'est transformé depuis longtemps déjà de paradis en enfer pour tous ceux qui y vivent.
On proie à une violence récurrente et à une pauvreté extrême. Voilà que l'archipel français tremble à présent devant un nouveau cauchemar, une possible épidémie de choléra. Le nombre de cas s'élève pour l'instant à 26. C'est 2 fois plus que le précédent bilan, établi seulement vendredi dernier. Et dès hier, la préfecture et l'agence régionale de santé ont ouvert une nouvelle unité pour assurer la prise en charge de l'ensemble des malades. Mathieu Laurent, bonjour.
Bonjour.
Le problème, c'est que le territoire manque aujourd'hui cruellement de soignants et qu'en cas d'accélération de la propagation, eh bien c'est une fois de plus l'impuissance de l'État à gérer la situation sur place qui risque d'être pointée du doigt. En attendant et sans préjuger donc des carences possibles, Mathieu, qu'est-ce que les autorités ont mis en place?
Eh bien, la situation est à ce point alarmante qu'une deuxième unité choléra, la première est au centre hospitalier de Mamoudzou, le chef-lieu, a été ouverte hier au centre médical de Dzomounié, commune du nord de Grande-Terre, proche de la localité de Kungu, là où le premier foyer a été localisé. C'est là d'ailleurs que l'Agence régionale de santé, l'ARS, concentre ses efforts. Son directeur de cabinet, Bastien Morvan.
On appelle la population qui habite dans le secteur et qui présente des premiers symptômes, donc première diarrhée, premier vomissement, à venir se faire dépister pour que, j'allais dire, en cas de test, donc de test rapide, donc par TROD positif, ils puissent être directement pris en charge à l'hôpital. Enfin, c'est bien ça l'objectif aussi, on reste vraiment toujours sur la même logique, c'est extraction et prise en charge hospitalière des personnes positives et intervention sur les foyers derrière.
Contacté dans la matinée, le directeur des services de la commune de Kungu précise que 650 des 1000 doses de vaccins distribués ont été administrées dans la seule journée d'hier. L'ARS, qui en attendant des renforts multiplie les maraudes de sensibilisation, reste confrontée à 2 lourdes réalités. Les persistantes restrictions d'eau courante, l'eau principal vecteur du choléra, et au plus fort de l'opération de police renforcée baptisée Wambushu 2, de ne pas pouvoir porter secours à ces populations des bidonvilles qui, malgré la maladie, ne prendront certainement pas le risque d'être arrêtés. L'urgence est telle, enfin, que le centre hospitalier de Mamoudzou a donné la priorité aux prises en charge liées au choléra, avec pour conséquence la fermeture de tous les dispensaires, sauf ceux de Jacaranda et de M. Tsapéré.
Merci Mathieu Laurent.
Quand l'État vole au secours du géant de l'informatique Atos.
Oui, hier le ministère de l'économie s'est dit prêt à acquérir les activités du groupe qu'il juge stratégique. Une bonne nouvelle évidemment pour l'ex-fleuron de la French Tech à la recherche de plus d'un milliard d'euros de liquidités pour financer son activité. Valentin Gris, bonjour.
Bonjour Thomas.
Quelles activités précises donc l'État se propose-t-il de racheter?
Eh bien l'État a soumis une lettre d'intention d'achat pour acquérir la totalité de 3 activités d'Atos, des activités hautement stratégiques puisqu'il s'agit dans l'ordre des supercalculateurs, notamment utilisés dans la dissuasion nucléaire, des systèmes informatiques utilisés par l'avion de combat français, le Rafale, ainsi que par le programme Scorpion, qui coordonne les véhicules terrestres de l'armée. Enfin, des actifs liés à la cybersécurité et à la data, hérités de l'entreprise Bull rachetée par Atos en 2014. Il est important de préciser à ce stade que cette lettre d'intention est non engageante. Elle permet surtout à l'État de démarrer une due diligence, c'est-à-dire une série de vérifications sur l'état de ses actifs pour envoyer une offre, toujours non engageante, d'ici le début du mois de juin, espère Atos. Bercy s'était déjà positionné début avril pour la reprise de ses actifs précis avec un prêt de 50 millions d'euros accordé à cette branche. Un prêt qui lui avait donné voix au chapitre puisqu'il permettait à l'État d'obtenir des actions de préférence qui ne peuvent pas être diluées et lui permettent de discuter de la stratégie du groupe. Bruno Le Maire parlait alors d'une première étape avant une possible solution nationale, mais il a rappelé hier sur LCI qu'il attendait l'intervention d'autres groupes industriels sans citer de nom. Thales et Dassault semblent les mieux placés évidemment. En tout cas, l'État ne prendra pas seul la possession de ses actifs estimés entre 700 millions et 1,1 milliard d'euros par Atos. Mais cet intérêt public tombe à point nommé. Vous l'avez dit, le groupe est en plein refinancement et annonce dans le même point de marché de ce matin qu'il lui faudra 1,1 milliard d'euros de liquidités d'ici la fin 2025 et non 600 millions comme estimé précédemment. L'annonce de l'État boostait le cours d'Atos en bourse de plus de 16% à midi.
Merci Valentin Gris. Démarche inédite hier, Mediapart a annoncé qu'il refusait de toucher la somme substantielle due par Google pour l'utilisation de ses articles, les fameux droits voisins du droit d'auteur institué pour les plateformes numériques par une directive européenne. Adrien Toffolet, bonjour.
Bonjour Thomas.
Pourquoi le site d'investigation a-t-il décidé donc de se priver de cet argent que lui doit légalement le géant américain?
Eh bien, depuis 2019, la loi française transposée de la législation européenne oblige les plateformes numériques à rétribuer au nom de la propriété intellectuelle les médias pour l'utilisation de leurs contenus. Contenus qui sont, pour les GAFAM, dont fait partie Google, pourvoyeurs de revenus, notamment publicitaires. Certains médias ont fait le choix de négocier directement avec Google, d'autres comme Mediapart, mais aussi Radio France, France Télévisions, L'Équipe, etc., passent par l'organisme de gestion collective des droits voisins de la presse, l'OGC-DVP, qui a négocié un accord pour l'ensemble avec les GAFAM et s'occupe de répartir équitablement les sommes entre les ayants droit. Sauf que Google a imposé le secret sur les montants négociés. C'est pour cette raison que Mediapart explique qu'il refuse une somme substantielle due par Google et ne donne pas de montant précis. L'enjeu pour l'ensemble des médias, c'est celui de la transparence. Et dans le cas de Mediapart, c'est d'autant plus un problème que le journal publie chaque année le détail de sa situation financière à ses lecteurs. Dévoiler le montant perçu par Google reviendrait donc à enfreindre l'accord signé avec le géant. C'est un bras de fer qui s'annonce. Seulement, même s'il y a un front uni des médias, il serait insuffisant face aux GAFAM. C'est donc au législateur de s'en emparer. C'est le sens de la démarche entreprise par Mediapart, explique sa directrice de publication Karine Fouteau.
On appelle à la représentation nationale, les élus, à se saisir de ce point, puisqu'encore une fois, il en va de la question de la confiance entre les médias et le lectorat. La représentation nationale est à même d'inscrire dans la loi cette obligation de transparence. De fait, différentes propositions de loi sont sur la table.
Notamment celle déposée le mois dernier par le député MoDem de Haute-Garonne, Laurent Esquenet-Gox, qui entend muscler la législation sur les droits voisins pour la rendre plus transparente. Justement, c'était un impératif, avait-il expliqué. Il en va de la pérennité du modèle économique de la presse.
Merci Adrien Toffolet.
5 ans après la loi relative à l'interdiction des violences éducatives ordinaires, une nouvelle campagne de sensibilisation s'ouvre aujourd'hui.
Oui, à compter de ce lundi, un spot va tourner en boucle sur une dizaine de chaînes de télévision, un film réalisé à l'initiative de l'association Stop VEO. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, son président Gilles Lazimi, médecin généraliste. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Avant de parler du contenu de cette campagne, peut-être pourriez-vous nous redonner en quelques mots donc la définition de ces VEO, violences éducatives ordinaires, que votre association combat.
Ce sont toutes les pratiques punitives ou coercitives utilisées par les parents pour faire obéir un enfant ou dans le cadre de l'éducation, entre guillemets. Ça veut dire que ce sont toutes les pratiques qui font mal, qui font souffrir, qui font peur, qui menacent un enfant sous prétexte de l'éduquer. Donc ces violences éducatives ordinaires sont interdites, comme vous l'avez dit, depuis le 10 juillet 2019. C'est la loi qui abolit toute violence envers un enfant. C'est la loi qui était nécessaire car il y avait un flou. Et un flou qui a encore récemment été remis au goût du jour. Il y avait un flou sur les violences. Il n'y avait pas de limite. Petite, grande violence, on pouvait comme ça décider tout seul que une petite claque, une petite fessée. Non, ce sont des violences et toutes les violences sont répréhensibles.
Alors en l'occurrence, dans le spot que vous avez fait réaliser, vous insistez sur l'aspect héréditaire de ces comportements de violence. Vous montrez un personnage qui, alors qu'il s'apprête donc à devenir père, redoute de reproduire les violences ordinaires qu'il a lui-même subies au cours de son éducation. Jusqu'à quel point il est difficile de renoncer à la violence éducative quand c'est le modèle dans lequel on a été élevé?
Oui, c'est difficile. Il n'y a pas que le modèle familial. Hein. Il y a pas cette transmission transgénérationnelle. Il y a le modèle sociétal, il y a le modèle culturel. Il faut vraiment qu'on réfléchisse à tout, dans tout ce qu'on a baigné hein, sur le regard de l'enfant, sur ses pratiques, sur les proverbes religieux qui nous poussent à frapper les enfants. C'est vraiment une image, une représentation de l'enfant qui est très particulière. Donc, il faut y réfléchir, il faut s'y replonger, et puis aussi réfléchir en tant que parent à comment on est parent. Et malheureusement, pour beaucoup, on n'a pas appris à être parent. On est parent avec l'enfant qu'on a été. Donc on va reproduire consciemment ou inconsciemment ce qu'on a vécu. Parce qu'on ne peut pas remettre en question nos parents. 90% des parents sont bienveillants et pensaient bien faire. Oui, mais il y a deux siècles ou un siècle, les hommes pensaient bien faire en frappant leurs femmes. Eh ben non, ce sont des choses qu'on peut changer, qu'on doit changer. Il y a des lois. Et les lois, elles font société. Les lois, elles sont là pour protéger les plus faibles.
Vous retracez la transmission donc de père en fils de certaines habitudes de brutalité. Aussi, oui. Est-ce qu'il fallait en déduire qu'il y a là une histoire qui est une histoire masculine ?
Pas seulement, c'est une histoire sociétale, mais derrière, vous avez raison, il y a une violence patriarcale. Le droit de correction, il existe depuis des millénaires, et le droit de correction permettait à un père de décider de vie et de mort pendant l'époque de Rome, et ensuite, les seigneurs pouvaient avoir un droit de correction sur les paysans, et puis sur leurs femmes et sur leurs enfants. Donc ça, c'est quelque chose qui est là depuis plusieurs millénaires. Et puis, il y a aussi d'autres théories très intéressantes. Il y a Olivier Morel, qui est un auteur et un militant contre les violences faites aux enfants, qui a écrit un livre qui s'appelle « De l'enfant protégé à l'enfant corrigé ». Comme si l'enfant avait besoin d'être modelé, corrigé, que c'était un mini-adulte. Et il fait une hypothèse très intéressante. À partir d'enquêtes de missionnaires dans des communautés de cueilleurs et de chasseurs, il s'aperçoit que là, on ne frappe jamais les enfants. Il n'y a jamais de violence. Et puis, on commence à les frapper au moment de la sédentarisation, quand on a des terres, quand on a des biens et quand on veut les faire fructifier. Et on utilise les femmes et les enfants.
On a bien compris, je crois, comment ces violences, violences qu'un enfant subit, peuvent influer sur le parent qu'il va devenir. Que sait-on avant cela des conséquences de ces mauvais traitements sur le développement même des enfants qui les subissent?
Alors, en matière de violences éducatives ordinaires, on est très en retard, la France. Hein, vraiment, on a mis beaucoup de temps pour parler de ces violences. Mais on a énormément d'études qui montrent, par exemple, on a une méta-analyse sur plusieurs dizaines d'années, 160 000 enfants. On voit que quand on utilise ces violences éducatives ordinaires envers un enfant, il y a des risques potentiel de mauvaise estime de lui-même, de mauvaise confiance en lui, de difficultés relationnelles avec les parents, avec les autres enfants, de difficultés affectives, de risques d'addiction, hein, d'une appétence aux produits toxiques plus tard, de troubles du comportement, de troubles de conduite et plus tard de violence. Il y a des liens entre harcèlement à l'école et violence éducative ordinaire. Il y a des liens entre violence envers les femmes et violence éducative ordinaire. C'est quand même incroyable qu'on ait eu besoin d'études pour prouver qu'il ne fallait pas frapper des enfants. On a toujours minimisé, banalisé. Aujourd'hui, il y a une loi, il faut qu'elle soit appliquée et il faut que les magistrats l'appliquent, notamment ceux de la cour d'arrêt de Metz.
Merci Gilles Lazimi, médecin, donc généraliste et président de l'association Stop VEO, d'avoir répondu à notre invitation. Et merci également à Loïs Guérin pour la préparation. Déjà mis en examen pour viol, Gérard Depardieu a été placé en garde à vue ce matin. L'acteur doit être entendu sur deux nouvelles accusations d'agression sexuelle. Enfin, Arnaud Lagardère est lui entendu depuis ce matin par un juge d'instruction en vue de son éventuelle mise en examen. À 63 ans, le PDG héritier de l'Empire bâti par son père est soupçonné d'avoir puisé durant des années dans les comptes de ses sociétés pour financer son train de vie et ses dépenses personnelles. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi, voilé et humide sur la majeure partie du territoire. En revanche, du nord de l'Aquitaine aux côtes de la Manche, là, les passages nuageux se partageront le ciel avec quelques éclaircies. Quant aux températures, elles afficheront entre 15 et 24 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Brice Garcia. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.